Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, demain à 21h sur Canal Plus Foot, et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Intégral Sport. On est ensemble jusqu'à 19h. Ça y est, c'est le grand soir pour l'équipe de France féminine. Quart de finale de l'Euro face aux tenantes du titre néerlandaises. Coup d'envoi 21h. On rappelle que l'objectif, c'est de briser cette triste série de 5 éliminations d'affilée à ce stade de la compète dans les 5 justement grands événements, que ce soit Euro ou Coupe du Monde. On espère que la série va s'arrêter. On en parlera avec Anthony Resch et Jeannot Rességui. À 18h15, Neymar va-t-il quitter le PSG cet été ? L'incertitude demeure dans les rangs parisiens. Alors que Christophe Galtier a entretenu le flou après le match amical au Japon ce midi, le Brésilien, lui, a affirmé vouloir rester. Vous aurez tous les détails avec Arthur Perrault. À 18h30, retour sur ce contre-la-montre, l'avant-dernière étape du Tour de France remportée par Wout Van Aert. Magnifique victoire pour lui qui aura sublimé ce Tour de France. Tour de France qui va être remporté par Jonas Vingegaard. Pas de changement au général. Il reste devant Tadej Pogacar. À 18h35, on va débriefer les qualifs du Grand Prix de France et la pole position magnifique pour le monégasque Charles Leclerc sur Ferrari. 18h40, présentation d'Italie-France. Ça, c'est du volley, la Ligue des Nations de volleyball avec cette demi donc pour les Français en terre hostile à Bologne. Et puis à 18h45, Eugene, les championnats du monde d'athlée. Le début du concours pour Kevin Mayer, la principale chance de médaille française. Il est engagé sur le décathlon. C'est parti pour l'Intégral Sport. Et les choses sérieuses, démarrent donc ce soir pour l'équipe de France féminine. Après une phase de poule maîtrisée, les joueuses de Corinne Diacre affrontent les Pays-Bas en quart de finale de l'Euro. On rappelle que les Néerlandaises sont tenantes du titre. Double objectif pour nos tricolores, atteindre le dernier carré et surtout briser la malédiction des quarts de finale. N'est-ce pas, Anthony Resch et Jeannot Rességui? Salut messieurs.
Salut Benoît, bonjour à tous.
Bonsoir Benoît, bonsoir tout le monde.
C'est terrible pour ces filles les gars, parce que à chaque fois on suit la phase de poule et on se dit bon, de toute façon on verra en quart. Anto, c'est un peu ça malheureusement.
Bah, effectivement, en fait, tu sais, on attend avec Jeannot depuis le début de la compétition ce jour, ce quart de finale. Tout le monde, en fait, tous les observateurs de l'équipe de France féminine et j'imagine aussi une grande partie des Bleus attendent ce moment de vérité. On va savoir vraiment ce que vaut cette équipe de France, puisque ça fait 3 ans qu'elles n'ont pas connu l'ivresse d'un match à élimination directe. La dernière fois, c'était lors du quart de finale lors de leur Coupe du Monde, justement en France, en 2019. Et elles avaient été éliminées par les États-Unis, qui ont ensuite été championnes du monde. Donc il y a énormément d'attentes autour de ce match, Benoît.
Ouais, il y a énormément d'attentes. Rappelle-nous la série quand même en chiffres. Ça fait 10 ans d'élimination dès le premier match à élimination directe.
C'est un cercle vicieux invraisemblable, c'est-à-dire que depuis 10 ans, comme tu le disais, l'équipe de France n'a pas réussi à se hisser dans un dernier carré de toutes les grandes compétitions internationales, que cela soit l'Euro, comme cette année, ça a été le cas en 2013, en 2017, les Jeux Olympiques, puisqu'elles n'ont pas été qualifiées pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ouais. Il n'y a pas eu non plus de demi-finale lors du Mondial 2015 au Canada, et donc pas de demi-finale non plus lors du Mondial 2019. À chaque fois, cela bloque. Et effectivement, si par le passé, on sentait une sorte de poids par rapport à cette obligation de performance, parce qu'il y avait eu les premières grandes sensations, souvenez-vous, en 2011, lors de la Coupe du Monde en Allemagne, avec cette demi-finale, et puis la demi-finale aussi aux Jeux Olympiques de 2012, et bien derrière, c'était un peu un traumatisme d'enchaîner des mauvaises performances. Là, c'est un peu moins le cas, Benoît. Les joueuses savent qu'elles sont attendues aujourd'hui même. Elles savent que tout n'est pas parfait dans leur rôle, même si elles sortent premières du groupe et qu'il y a eu des bonnes choses. Mais elles ne se focalisent pas que sur ce quart de finale. Elles veulent à tout prix continuer la route parce qu'elles se sont beaucoup parlé ces derniers jours. L'objectif, c'est le 31 juillet, c'est la finale. Et à l'image de la capitaine Wendy Renard, justement, elles veulent à tout prix changer le cours de l'histoire de l'équipe de France. Je vous propose de l'écouter.
C'est ensemble qu'on ira changer cette histoire. Et pour ça, comme je l'ai dit, je me répète, mais il va falloir fournir énormément d'efforts. Être concentré de la première à la dernière minute, minimum. Parce que là, j'ai dit, c'est une nouvelle compétition qui va commencer.
Voilà, évidemment, cette phase à élimination directe, France-Pays-Bas, quart de finale de l'Euro féminin ce soir, 21h. Ça crispe forcément un peu les joueuses. Et quel est l'état d'esprit de la sélectionneur, du coup, Anthony,
Corinne Diacre? Elle est dans la même lignée, c'est-à-dire que Corinne Diacre, depuis des mois, elle n'a qu'un mot à la bouche, le 31 juillet. Il faut faire 6 fois 90 minutes pour aller chercher cette finale et aller chercher ce titre, et c'est son objectif majeur pour elle. Ce match face aux Pays-Bas, qui sont quand même vice-championnes du monde et championnes d'Europe en titre, est qu'une étape sur le chemin qui les mènera à Wembley lors de la finale le 31 juillet. Et elle n'est pas plus inquiète que ça, elle ne veut plus regarder le passé comme elle l'a fait pour toutes les tensions qui se sont passées ces dernières années. Elle veut avancer avec ce groupe-là qu'elle a reconstruit et surtout continuer la route. Je vous propose d'écouter.
Je pense que s'il doit y avoir un favori, c'est plutôt elle. D'autant plus que nous, on n'arrête pas de nous répéter qu'on n'arrive pas à passer les quarts de finale. Donc je doute que l'on soit favori demain. Ce qui est intéressant surtout, c'est de voir comment va se comporter l'équipe. Aujourd'hui, on a envie ensemble de bien vivre cette compétition. On regarde vers l'avant. On a connaissance du passé, bien évidemment. Mais toutes les joueuses n'ont pas vécu ces 10 dernières années. On est focalisé uniquement sur cette compétition.
Et là, je me tourne vers l'homme de chiffres, Jeannot Rességuier, évidemment la voix du foot sur RMC. Jeannot, sur le papier, qui est favori de ce match alors? Parce que les confrontations directes tournent plutôt en faveur des Françaises, mais c'est vrai que l'expérience de ces matchs couperés est plutôt à l'avantage des Néerlandaises.
Ouais, et puis en plus on regarde le classement, l'équipe de France est 3e mondiale, les Pays-Bas 4e mondiale. Elles ont toutes deux marqué 8 buts sur la première partie de cette championnat d'Europe. La France en a encaissé 3, un par match. Les Pays-Bas en a encaissé 4, mais là aussi au minimum un par match. C'est difficile de se positionner concrètement, si tu veux. Il y a le palmarès qui parle pour les Pays-Bas, mais il y a eu un changement de sélectionneur entre-temps, puisque le sélectionneur anglais Mark Parson a pris la place de celle qui a amené les Pays-Bas vers le titre européen et qui aujourd'hui est tout simplement la coach, la sélectionneur de cette formation anglaise. Donc ça veut dire quelque part que on est dans un presque renouvellement de génération. Il s'appuie sur des filles qui ont l'expérience du haut niveau. Je pense à Nguyen qui revient de Chelsea en défense. Je pense à Gronen au milieu de terrain de Manchester United. De Medina qui sera titulaire vraisemblablement. Dans quel état physique
au sein de
l'attaque. Voilà. Et puis ensuite, il a dû gérer des absences pour Covid, des absences pour blessure. Van Veleda, la gardienne qui se blesse dès le premier match à l'épaule. La néo-parisienne Martens qui s'est blessée et qui est forfait pour le reste de l'Euro, touché à un pied lors du troisième match. Et pour l'équipe de France, il y a l'absence de Katoto. Il y a cette première mi-temps extraordinaire contre l'Italie. Il y a 30 minutes plutôt intéressantes contre la Belgique. Il y a une belle entame de match contre l'Islande, mais à chaque fois il y a ce gros coup de mou, cette équipe qui se délite. Alors c'était des matchs de poule, dans la gestion il fallait tout simplement se qualifier en quart de finale et si possible première, objectif atteint. Donc l'équipe de France va se positionner ce soir, et je suis un peu de l'avis de Corinne Diacre, face au tenant du titre, donc pour moi aux favorites de la rencontre ce soir.
Donc on peut se considérer comme outsider sur ce quart de finale de l'Euro féminin ce soir.
Anthony, on peut ne pas être d'accord avec moi, ça c'est sûr.
Non, mais bien sûr. Anthony, c'est sûr qu'on a quelques incertitudes concernant cette équipe de France. On ne sait jamais vraiment la compo qui sera alignée par Corinne Diacre. Il y a tellement de turnover, même les joueuses sont dans le doute le matin du match.
Ouais, et puis là, je peux te dire, à l'heure où on se parle, elles ne savent toujours pas si elles vont débuter,
puisqu'elles
apprennent. Elles apprennent effectivement cette composition d'équipe lorsqu'elles entrent dans la salle de la dernière causerie de Corinne Diacre. Donc il y a toujours
c'est comme le bac, t'espères de voir ton nom sur la feuille. Quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis parfois tu vois ton nom à un endroit peut-être où tu t'y attendais pas aussi.
Un rattrapage. Ouais.
Ça peut peut-être arriver. Enfin, pas pendant 7 euros, mais ça peut peut-être arriver. Ouais. Enfin, oui, effectivement, il y a des incertitudes. Les tendances qui se dégagent en attendant évidemment l'officialisation de la composition d'équipe, c'est qu'a priori Grijembok pourrait retrouver sa place de titulaire au niveau de la charnière centrale aux côtés de la capitaine Wendy Renard. Pour le reste de la défense, au niveau des latérales, ça ne devrait pas bouger. Sakina Karchaoui au poste de latéral gauche, à droite Eve Périssé. Une incertitude dans l'entrejeu parce qu'il y a 4 joueuses pour 3 places. L'indéboulonnable, c'est Charlotte Bilbao, la sentinelle de ce groupe. Grace Guiraud a priori aussi est est quand même assez, assez partante pour être titulaire et favorite pour être titulaire. Et ensuite, il y a bataille entre Sandy Toletti et la jeune Clara Matteo qui a vraiment crevé l'écran en phase de poule. Mmh. Et au niveau de l'attaque, désormais sans Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante parisienne blessée et forfait, ça sera a priori Melvin Mallard à la pointe de l'attaque. Donc on exit Oulema Tassar, qui était censée être la numéro 2, mais qui ne l'est plus. Ouais. Et puis à droite, Khadidia Toudiani, l'ailière parisienne, et à gauche, l'ailière lyonnaise, Delphine Cascarino.
Mais je pense qu'on peut avoir droit à une petite surprise.
Mais oui,
on n'est jamais à l'abri d'un contre-pied, bien sur ses appuis, l'ex-défenseur de l'équipe de France.
C'est la spécialiste.
Elle en est capable.
Tout à fait. 18h10 sur RMC, vous écoutez l'Intégral Sport. Évidemment, on vous présente le quart de finale de l'Euro féminin qui va opposer l'équipe de France aux Pays-Bas ce soir à 21h. Et on voulait mettre en avant une joueuse, c'est la patronne, évidemment, Wendy Renard, Anthony, que tu connais très bien. On l'appelle d'ailleurs la patronne, on l'appelle également l'ancienne, ou encore Mamie,
ouais.
C'est vrai.
Oui, Mamie, oui.
Une joueuse...
Ça allait moins.
Elle a dépassé la trentaine, elle est capitaine depuis qu'elle a 23 ans. Bon, il y a eu quelques parenthèses, évidemment, et ça a fait toute une histoire, le brassard sous Corinne Diacre, avec les débuts de Diacre à la tête de cette équipe de France. Mais la vraie patronne de ce vestiaire, depuis quasiment 10 ans, c'est bien Wendy Renard.
Oui, c'est Wendy Renard, c'est le symbole de l'excellence et de la longévité au haut niveau. Wendy Renard, 32 ans il y a quelques jours, est arrivée en équipe de France début 2011. Donc c'est vous dire, ça fait plus de 11 ans qu'elle n'a pas raté une seule compétition internationale avec l'équipe de France. Et presque la moitié de son temps en sélection, elle l'a passé avec le brassard, même si c'est pas quelque chose qu'elle revendique. C'est une leader charismatique, naturelle. Quand Wendy Renard s'exprime, elle ne s'exprime pas tout le temps, ce n'est pas la plus bavarde, mais par contre, quand elle s'exprime dans le vestiaire, je peux vous dire que tout le monde se tait, tout le monde la regarde. Et même parfois, quand elle entre dans un vestiaire sans dire un mot, son regard suffit à convaincre et à motiver les autres. C'est vraiment la sensation que toutes les joueuses vous racontent lorsqu'elles la côtoient. Elle a un charisme assez hors du commun dans ce vestiaire de l'équipe de France. C'est elle qui tient les rênes au niveau du groupe. Elle a toujours les mots justes pour les jeunes joueuses notamment qui arrivent. Elle a été dans ce rôle-là il y a 11 ans et maintenant c'est elle qui accompagne, qui fait le rôle de grande sœur pour les Melvin Mallard, les Selma Bacha, pour leur transmettre cette culture de la gagne qu'elle a apprise du côté de l'Olympique Lyonnais. On le rappelle, c'est 8 Ligues des Champions. Wendy Renard,
c'est la taulière de l'équipe de France, mais surtout de l'Olympique Lyonnais. Ouais, t'as raison.
Et aussi, oui, c'est aussi la patronne de l'Olympique Lyonnais au niveau du vestiaire. Et c'est vrai que c'est la locomotive de cette équipe de France. Et je peux vous dire que cette semaine, elle a appuyé les mots. Les mots étaient très justes au niveau du groupe, très forts, des discours pas longs, encore une fois, mais pour rendre le groupe encore plus solidaire, encore plus concentré et surtout aller chercher cette demi-finale qu'elle attend tant, parce que elle a connu les désillusions après 2012. Elle était là en 2013, en 2015, en 2017 et en 2019. Et elle ne veut plus revivre ça.
Exactement. Et on rappelle donc ce match ce soir, messieurs, 21h, France-Pays-Bas, en intégralité sur RMC, qui est la radio officielle de l'Euro féminin. Anthony Reyes, Jeannot Rességui au commentaire avec Sébastien Piocel. On rappelle également d'ailleurs que la première demi-finale opposera l'Angleterre à la Suède et la deuxième, l'Allemagne à la France, on l'espère, la France ou les Pays-Bas.
Ou plutôt France ou Pays-Bas, voilà. Contre l'Allemagne.
T'as raison, exactement. On espère que les Françaises seront au rendez-vous. Si elles passent, ce sera mercredi le match, la première demi à suivre mardi entre les Anglaises et les Suédoises. Merci Jeannot, merci Anthony.
Avec plaisir.
Évidemment Anthony, tu vas récolter les infos de la compo, savoir s'il y a une petite surprise, et vous aurez tout sur rmcsport.fr. 18h13 sur RMC dans un instant. Le cas Neymar, on va filer au Japon, retrouver en direct Arthur Perrault. Il ne dort pas Arthur, et oui, évidemment on parle de l'avenir du Brésilien sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, mais pas certain de rester à Paris cet été. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport,
Benoît Boutron.
18h16 sur RMC, l'Intégral Sport jusqu'à 19h. Évidemment, dans un quart d'heure, on va revenir sur ce contre-la-montre, avant-dernière étape du Tour de France, contre-la-montre remporté par l'exceptionnel Wout Van Aert, évidemment le héros de ce Tour de France, avec Pogacar et Vingegaard. Pas de changement général, c'est bien Vingegaard qui va remporter le Tour devant Tadej Pogacar, qui se contentera, lui, du maillot blanc de meilleur jeune. On en parlera avec Cyril Guimard, évidemment. Et puis d'ailleurs, dans 20 minutes désormais, on va revenir également sur les qualifs du Grand Prix de France, avec la pole position pour Charles Leclerc, le monégasque, qui aura fort à faire demain, puisqu'il sera juste devant les deux Red Bull Honda de Max Verstappen et de son coéquipier. Donc ça va être compliqué pour Charles Leclerc. 18h16, Neymar sera-t-il encore parisien cette saison alors que le contrat du Brésilien s'étend avec le PSG jusqu'en 2027? Christophe Galtier a entretenu le flou autour de sa situation à l'issue du match amical qui a été remporté 3-0 contre les Urawa Red Diamonds ce midi à Saitama. On va en parler avec Arthur Perrault qui est au plus près des Parisiens. Salut Arthur.
Kombawa Benoît, bonsoir à tous.
T'es là, t'es encore en vie. Quelle heure il est chez toi là?
Il est précisément 1h17. Ah. J'ai 7 heures d'avance sur la France.
Et voilà, quel champion. Et quel professionnalisme, bravo. Hein, tu pourrais être au lit, mais non, tu es bien avec nous.
Il y avait un petit peu de route pour aller au stade ce soir, c'était un peu particulier.
Voilà, puis un peu d'actualité, on le disait, on va revenir sur cette victoire parisienne, mais c'est vraiment le sujet qui déchaîne les passions, notamment sur les réseaux sociaux. L'avenir de Neymar, Arthur, rappelle qu'il a été acheté 220 millions d'euros en 2017. On rappelle qu'il est engagé jusqu'en 2027, donc. Et rappelons également que lui a affirmé qu'il voulait rester. On va l'entendre, Arthur, et on réagit juste après.
Je veux toujours rester au club. Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi.
Oui, alors pour vous raconter un peu les coulisses de cette réaction, Neymar qui s'est présenté en zone mixte à la fin de cette rencontre. Et tu le disais Benoît, c'est vrai que son avenir est encore très très flou, surtout depuis les déclarations du président Nasser El Khelaifi en début de saison, précisant que c'était la fin du bling-bling au Paris Saint-Germain, des mots qu'il avait tenus lors d'une interview réalisée chez nos confrères du Parisien. Reste à savoir si Neymar est vraiment poussé vers la sortie par le club de la capitale. Ah oui. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que il est très en forme. Une nouvelle fois ce soir, il a été vraiment très bon dans le jeu. Il a réalisé 25 bonnes minutes face à cette équipe des Urawa Red Diamonds du côté de Saitama. Ce qu'on nous dit dans son entourage, c'est qu'il est vraiment très heureux, que voilà, physiquement, il a vraiment travaillé tout l'été, qu'il se sent prêt, qu'il est très content des séances avec le nouveau staff. Et voilà, lui est décidé à poursuivre l'aventure.
Mais Arthur,
et pour lui, il n'y a aucun doute.
Parce que le vrai sujet pour moi, c'est pas le fait que Neymar veuille rester au PSG, il le dit depuis longtemps, c'est plutôt la réaction qu'on a trouvée en demi-teinte de Christophe Galtier. On va l'entendre, tu t'es entretenu avec lui à l'issue de ce match. On pouvait penser que le coach allait soutenir son joueur, allait dire qu'évidemment il souhaitait le voir rester cette saison, en tout cas au Paris Saint-Germain. C'est pas si clair que ça. Écoutez Christophe Galtier lorsqu'il a été interrogé sur le cas Neymar.
Oui, Neymar travaille bien depuis le début de la saison. Il est, il me semble, heureux aussi. Il est très en jambes. Je m'étais exprimé, évidemment, en conférence de presse sur quand on m'avait parlé de la situation de Ney. Après, ce qui va advenir dans un futur très proche, à la clôture du mercato. On l'annonce partant, on l'annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec Ney sur cet aspect-là. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui ou sur sa situation au club à travers les séances d'entraînement et la joie qu'il a de s'entraîner et de jouer.
C'est tout de même timide comme réaction, Arthur, et on peut envisager un scénario comme quoi Galtier aimerait le garder, mais pour les dirigeants, c'est pas si évident que ça, hein. A priori.
Non, et il le dit de façon assez juste en précisant que il n'a pas vraiment eu l'occasion de s'entretenir avec lui sur cette thématique-là. Et c'est vrai que forcément, il y a beaucoup de rumeurs qui courent à son sujet depuis plusieurs semaines. On a même appris que le Paris Saint-Germain l'avait proposé à Manchester City et que finalement Manchester City avait dit que il n'était pas intéressé. Une information qui avait été démentie, oui, on le précise quand même, par Pep Guardiola. Exactement. Le lendemain en conférence de presse, mais ce qui pose problème et ce qui va être déterminant, c'est à partir du moment où il y aura eu échange aussi entre Christophe Galtier et Luis Campos, qui est le conseiller sportif et qui a aussi la main sur ce type de dossier. C'est vrai que on est dans une situation qui peut être la même que dans d'autres cas pour d'autres joueurs. On pense notamment à Arnaud Calimuendo qui revient de près du côté de Lens, on va en reparler. Mais voilà, tant qu'il n'y a pas eu de décision claire prise, ouais, en accord avec Luis Campos, c'est très difficile de dire si clairement Neymar aujourd'hui est poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain.
Même si évidemment les clubs qui peuvent s'offrir Neymar sont peu nombreux. Hein, donc.
Alors oui, et c'est là aussi le fond du problème. C'est aussi le problème pour l'instant des sorties du côté du Paris Saint-Germain.
Qui peut assumer son salaire et un transfert.
Qui est capable d'assumer le salaire. Ouais. Et oui. Alors on pense à Chelsea, on pense encore à Newcastle. C'est une information RMC Sport qu'on vous avait révélée maintenant il y a un bon mois. Mais les candidats, les prétendants ne sont pas très nombreux aussi. Et là, ça pose un problème.
Exactement. Donc on vous tient informé évidemment du cas Neymar dès qu'on a plus d'informations sur rmcsport.fr. Parlons des autres dossiers. Il y a d'autres sujets d'actualité. Tu as commencé à le dire effectivement. Il y a le cas Arnaud Kalimuendo. On rappelle qu'il était prêté les deux dernières saisons au RC Lens. Il a encore marqué ce midi. On va parler du match qui a été remporté 3-0 face aux Red Diamonds. Il a marqué et pourtant on n'est pas sûr de pouvoir le garder ou de vouloir le garder au PSG. C'est ça qui est surprenant aussi.
Oui, c'est vrai que après il sort quand même d'une très très bonne saison et Christophe Galtier l'a souligné en conférence de presse ce midi. On rappelle ses chiffres. 32 matchs pour 12 buts inscrits du côté du Racing Club de Lens. Et ce qui est important, c'est là que ça va avoir un rôle dans la réflexion d'Arnaud Kalimuendo, c'est que il était presque un titulaire indiscutable du coup. Il avait vraiment du temps de jeu et là il se retrouve à revenir dans son club formateur auquel il est très attaché. Et ça en coulisses on nous le dit vraiment, Arnaud Kalimuendo tient vraiment au Paris Saint-Germain. Mais il a besoin de ce temps de jeu et on est dans une situation identique à celle concernant Neymar, c'est que il y a des échanges en ce moment entre Arnaud Kalimuendo, Christophe Galtier et Luis Campos, que visiblement Christophe Galtier serait plutôt tenté de le garder pour essayer de lui offrir ce temps de jeu, alors que du côté de Luis Campos, on étudie plutôt une porte de sortie. On a beaucoup entendu parler de Leeds jusqu'à aujourd'hui pour Arnaud Kalimuendo. Rien de bien concret pour l'instant, mais c'est un joueur qui veut jouer énormément. Et il faut le dire, il est un poste qui est quand même très très fermé au Paris Saint-Germain.
Évidemment, et puis on rappelle que le PSG a engagé Hugo Ekitike et qu'il y aura de la concurrence avec Kylian Mbappé, Neymar s'il reste, donc effectivement offensivement il y a du monde à Paris. Et puis autre sujet, ou plutôt une confirmation, il était titulaire aujourd'hui dans ce match amical, mais Christophe Galtier a bien indiqué à Keylor Navas qu'il sera gardien numéro 2 cette saison.
Oui, Christophe Galtier qui avait d'ailleurs déjà été très très clair lors de sa conférence de presse de présentation où il avait indiqué qu'il fonctionne toujours avec un numéro 1 et un numéro 2, que c'est plus simple pour lui et aussi pour les gardiens de savoir leur position clairement au sein de l'effectif. Et c'est vrai que il a réaffirmé ses propos ce midi en disant qu'il a été très clair avec les gardiens donc en début de saison, il a échangé avec eux, il ne souhaite absolument pas de rotation, il veut fonctionner avec un système de numéro 1 et numéro 2. Et donc Keylor Navas sera bien le numéro 2, mais Christophe Galtier a été très habile en indiquant que il aura quand même son rôle à jouer. Alors on ne sait pas si c'est un rôle de vestiaire ou un rôle pour certaines rencontres de coupe nationale par exemple, mais voilà, Keylor Navas au moins aura la coupe quand de même France. Son importance.
Oui, il n'y aura a priori pas clair. De turnover en Ligue des Champions comme ce qu'on a pu voir les dernières saisons quoi. A priori il y a bien un numéro 1 et un numéro 2, Donnarumma et Keylor Navas.
Exactement.
Arthur, qu'est-ce que tu retiens plus globalement du match amical qui s'est déroulé, donc le deuxième au Japon pour le PSG? Bon, cette victoire 3-0, un bon Kylian Mbappé. Rappelons qu'il y avait eu un énorme turnover réalisé par Christophe Galtier, une large revue d'effectifs avec une confiance accordée à certains Titi parisiens d'ailleurs.
Exactement, 10 changements opérés par Christophe Galtier, avec notamment une titularisation importante au milieu de terrain, celle de Warren Zaïre-Emery, qui aura quand même disputé 60 minutes de très bonne qualité. On rappelle qu'il a signé son premier contrat professionnel avec le PSG la semaine dernière, donc c'est vraiment tout frais pour lui.
16 ans.
Et ça vient quand même récompenser sa très bonne semaine à l'entraînement, où on l'a souvent vu dans le rôle de joker de numéro 6. Impressionnant de maturité, il a 16 ans seulement, Warren Zaïre-Emery, et en conférence de presse, il a reçu les louanges de son coach qui a justement rappelé qu'il était surprenant de maturité, de clairvoyance, et qu'il a quand même ce privilège énorme de côtoyer de très très grands joueurs, et que Christophe Galtier accordera beaucoup d'importance au Titi du Paris Saint-Germain. Ce qu'on peut aussi vous dire, c'est que le staff parisien accorde une importance toute particulière à Warren Zaïre-Emery, de façon à vraiment bien l'encadrer et à contrôler aussi cette folle ascension qu'il est en train de vivre du côté du PSG. Ouais. Voilà, c'est Christophe Galtier le suit de très très près, le motive. On a vu d'ailleurs plusieurs séquences sur les réseaux sociaux du club. Il le motive avec insistance lors des séances d'entraînement. Mais attention, voilà, il y a un contrôle autour de l'ascension de Warren Zaïre-Emery.
Effectivement, et si vous voulez en savoir plus sur Warren Zaïre-Emery, je vous invite à écouter Scouting, évidemment le podcast dédié aux talents français de demain, avec Mathieu Bonnemer notamment. On avait détaillé le profil de Warren Zaïre-Emery, tu l'as dit, né en 2006, qui était un titulaire indiscutable de l'équipe de Youth League, donc les U19, et qui désormais fait partie du groupe professionnel et a même disputé 60 minutes ce midi avec les stars du PSG. Merci Arthur, bonne nuit cette fois, hein. 1h30, il est temps de se coucher là, ça y est. Hein.
Exactement.
Parce que demain, transit.
Avant le vol vers Osaka demain.
Exactement. Et puis, dernier match amical lundi pour les Parisiens avant de revenir en France et de préparer le trophée des champions. Merci Arthur Perrault. 18h27 sur RMC dans un instant. Retour sur la route du tour et sur la victoire dans le chrono individuel pour Wout Van Aert. Le maillot jaune est désormais assuré pour Jonas Vingegaard. On va débriefer tout cela avec le druide Cyril Guimard. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h30 tout pile sur RMC, l'Intégral Sport, un week-end chargé hein, au niveau sportif évidemment avec la conclusion du Tour de France. On va en parler dans un instant avec Cyril Guimard, avec ce Grand Prix de France. On en parle dans 5 minutes avec Jean-Luc Roy, le Grand Prix à suivre demain à 15h, la pole position pour Charles Leclerc devant Max Verstappen, des Français décevants. Et puis évidemment, la fin des championnats du monde d'athlétisme à Eugene aux États-Unis. On retrouvera Aurélien Tiercin à partir de 18h45. Je vous donne ce rendez-vous 18h50. Le début du concours du décathlon pour Kevin Mayer avec le 100 mètres. On va le suivre en direct, bien évidemment. Évidemment, donc on va sur les routes du Tour retrouver le druide Cyril Guimard pour une dernière fois. Salut Cyril!
Oui, bonsoir à tous. Dernière fois, peut-être.
Alors,
pas.
Dernière fois pour moi, parce que demain,
on sera peut-être encore là l'année prochaine. Ah bah non, je ne sais pas.
Dernière fois cette année. Bah, je rappelle que c'est ton 51e tour. Hein, donc évidemment, tu seras là l'année prochaine. Hein. Christophe Cessieux est en train de finaliser ton contrat.
Oui, là, ça va être plus compliqué parce qu'on a eu quelques petits accrochages là, sur l'ensemble de ce tour.
Oh, bah, c'est le cas tous les ans.
D'ailleurs voilà. Pas qu'avec Christophe, avec Jérôme aussi. Jérôme ça chauffe un peu de temps en temps, surtout que lui, il veut que c'est les vélos qui gagnent et pas le coureur, donc, ou le maillot. Enfin, je sais pas.
D'accord. Alors, on rappelle juste un peu de coulisses, voilà, à ceux qui nous écoutent. Évidemment, vous passez 3 semaines ensemble avec tous les jours des repas partagés et tout. Vous pouvez plus vous supporter au bout de 3 semaines et puis après, vous vous manquez. À partir du mois de septembre, c'est un peu ça.
Ben, avant la fin des 3 semaines, on a déjà divorcé 4 fois.
Voilà, c'est ça.
Et puis nos avocats s'arrangent pour que finalement on retrouve un peu de sérénité. Voilà. On s'embrasse à ce moment-là. Voilà. Parce qu'on ne prend pas de masque, nous. Hein.
Ah, voilà, bon. Donc, voilà. Attention au Covid quand même.
Non, là, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça.
Bon, Cyril, on s'y attendait. On a eu un contre-la-montre qui n'a rien changé au niveau du classement général. C'est bien Jonas Vingegaard qui va remporter le tour, mais il faut absolument rendre hommage à ce coureur fantastique qui est Wout Van Aert. 3e victoire d'étape, maillot vert, évidemment il va remporter le maillot vert sur les Champs-Élysées demain. Il peut gagner demain d'ailleurs compte tenu de ses qualités, mais quel Tour de France pour lui, gagner ce contre-la-montre après 2 autres victoires d'étape. Il a été fantastique, hein, Wout Van Aert.
Il a été fantastique du premier au dernier jour. Il a été décisif d'ailleurs dans plusieurs étapes, ne serait-ce d'ailleurs que sur l'étape des pavés, les pavés de Paris-Roubaix. Mmh. Et puis il a fait un travail en tant qu'équipier absolument extraordinaire. C'est l'homme du Tour. C'est pas lui qui le gagne, mais... Vous savez, quand vous regardez le dernier kilomètre de ce contre-la-montre aujourd'hui, il est clair que Vingegaard fait cadeau de la victoire finale sur ce, sur ce contre-la-montre.
Il arrête son chrono avant la ligne. C'est vrai que c'est une image assez surprenante.
Mais, ouais. Non, mais au 500 mètres, il s'est relevé. Et puis pour être sûr de que Wout Van Aert gagne l'étape, il a même fini les 150 derniers mètres pratiquement arrêté. Mais c'est dans l'esprit de l'équipe. équipes. Regardez hier, eh bien, ils ont permis à un Français de remporter l'étape. Christophe Laporte hier, qui s'est extirpé du peloton à 1,5 km, de façon à pouvoir aller l'emporter en évitant le rush des sprinters. C'est aussi dans l'esprit de cette équipe qui a une certaine philosophie, une certaine politique, et qui aujourd'hui domine. Du moins sur ce Tour de France et sur d'autres épreuves, domine le cyclisme international, le Tour étant bien sûr la référence.
Évidemment, alors donc étape remportée, la troisième victoire d'étape pour Wout van Aert, qui a été élu super combatif d'ailleurs, c'est tombé là en début de soirée.
Ça n'est pas illogique.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, on l'a vu partout, donc forcément c'est logique. Parlons du grand vainqueur, Jonas Vingegaard, qui a abordé ce contre-la-montre en contrôle, et il mérite vraiment de remporter ce Tour. Il y a plus de 3 minutes d'écart entre lui et Tadej Pogacar, ça a été lui le patron de ce Tour de France version 2022, hein, Cyril.
Ça a été lui, oui, puisqu'il va remporter le Tour de France. Je préférerais dire que c'est son équipe qui a été la patronne. C'est elle qui a régenté la course, d'ailleurs avec beaucoup de doigté. Et puis on parlait tout de suite de Van Aert. Oui, elle a maîtrisé la course du premier au dernier jour. Cette victoire, elle est logique. Elle a failli quand même leur échapper à 3-4 km de l'arrivée. Notre ami Vingegaard
a une petite. Il a dû transpirer là quand il a failli
frayeur quand même. Si jamais il a un tout petit peu de sable ou de choses comme ça, il fait vol par terre et à mon avis, il y a forte chance que le Tour soit perdu. Parce qu'à la vitesse où il virait, t'es pratiquement à 55-60. Je pense qu'il serait fait mal. Mais c'est passé. Il faut bien le dire, avoir de la chance, ou lorsque on se déconcentre un tout petit peu, avoir un peu de chance pour que ça ne se transforme pas en drame.
Et puis on soulignera tout de même, pour terminer, la belle quatrième place de David Gaudu. Donc il échoue au pied du podium, mais il y a un sacré écart puisque il est loin de Geraint Thomas qui lui termine troisième. David Gaudu a quasiment 14 minutes du vainqueur Vingegaard, mais qui conserve sa quatrième position devant Alexandre Vlasov. Tour réussi tout de même pour Gaudu, hein, Cyril.
Oui, tout réussi, mais comme vous le dites, à 14 minutes, des Français qui ont été, on va dire, en deuxième rideau, constants, réguliers, qui se sont battus avec leurs moyens. Vous savez que le contre-la-montre, c'est quand même l'épreuve de vérité. Et quand on regarde, on va dire, l'épreuve de vérité, eh bien, malheureusement, vous savez, il y a 24 heures, enfin 26 heures exactement, nous disions que le cyclisme français était en crise, Laporte gagne, d'un seul coup le cyclisme français est le meilleur du monde, et quand l'épreuve de vérité arrive, on retombe à notre niveau. À titre d'exemple, Benjamin Thomas, mais qui n'était pas à son meilleur niveau, c'est vrai, termine à 3,09, 24e, Bardet à 3,10, 25e, 26e Gaudu à 3,10 également, et puis après on a gagné.
On est loin du top niveau.
Bon, vous savez que ça fait 45 secondes par tranche de 10 km perdus par nos coureurs. Donc on va essayer de garder le calme et puis une certaine sérénité, une certaine objectivité.
Bon,
quand on regarde le contre-la-montre, on n'a quand même pas le meilleur cyclisme du monde.
Exactement. Merci Cyril Guimard. Tu restes là, évidemment, jusqu'à de 19h à 20h avec l'équipe.
C'est normal, je suis prisonnier de Christophe.
Oui, c'est ça. Évidemment, il ne peut pas te laisser sortir du camion, surtout qu'il a pris un peu de poids.
Non, là, je suis enchaîné.
Voilà, exactement. S'il se met devant la porte, tu ne peux pas sortir quoi qu'il arrive. Donc,
Christophe, là, y a pas la place.
Avec Jérôme Coppel, avec Cyril Guimard et avec Pierre-Yves Leroux à partir de 19h. Merci Cyril. À tout à l'heure. 18h38 sur RMC. C'est l'autre événement de ce week-end, l'autre événement sportif, la Formule 1, avec ce Grand Prix de France. Évidemment, c'est la 12e manche du championnat du monde et la pole position sera pour Charles Leclerc, le monégasque qui confirme son excellent état de forme. Il va devancer les deux Red Bull Honda de Max Verstappen et de Sergio Pérez. Pas de miracle, malheureusement, pour nos pilotes français. C'est Esteban Ocon partira 10e, Pierre Gasly s'élancera en 14e position. Bonjour le King, Jean-Luc Roy.
Salut Benoît, rebonjour à tous.
Merci d'être là en studio, évidemment, pour ce week-end particulier, donc ce Grand Prix de France. Et cette confirmation, Charles Leclerc est un spécialiste des séances de qualification. Quel, quel métier, quel talent tout simplement.
Ah écoute, hein, indubitablement, tu le rappelais en 12 qualifications, il en signe 7 quand même, c'est lui l'homme le plus rapide sur un tour, ça c'était clair, et c'était pas très évident après les séances d'essais libres, parce qu'effectivement il avait été le plus rapide dans la première, Sainz dans la deuxième, Verstappen, et puis on savait que ce serait très serré. De fait, après la première tentative en Q3, il n'y avait que 8 millièmes d'écart entre les deux hommes, et puis là il a frappé très fort lors de sa deuxième tentative, il a repoussé Verstappen à 304 millièmes exactement. Alors bon, tu vas me dire 3 dixièmes, c'est pas un gouffre, mais quand même, surtout que Pérez n'est pas loin derrière, Verstappen aurait aimé, disons, être un peu plus près. Maintenant, il faut toujours relativiser. Demain, la course va être longue, 53 tours, il fait très chaud, puisqu'il fait de l'ordre de 30 degrés dans l'air et 53-54 degrés sur la piste. Comme toujours, ça va être l'utilisation des pneumatiques, la longévité, et puis surtout, là, c'est deux contre un.
On va avoir les deux pilotes Red Bull. C'est le problème pour Charles Leclerc sur la course de demain, c'est que là, il sera pourchassé par les deux Red Bull Honda, donc Verstappen et Sergio Pérez, qui vont pouvoir mettre une stratégie en place pour le déstabiliser en plus. C'est comme ça que ça va se passer, a priori.
Bah, je pense. Là, on a cramé, entre guillemets, c'est le cas de le dire, sur cette piste surchauffée, pas mal de trains de pneus soft, puisqu'on a joué. Là, tu sais qu'il n'y a plus du tout cette obligation un petit peu stupide avant d'utiliser les pneumatiques de la queue de banc, etc. Maintenant, c'est fini tout ça. On fait comme on veut. On a les trains de pneumatiques, mais ça veut dire que là, on en a utilisé quand même beaucoup, de manière à se positionner le mieux possible sur la grille. C'est quand même le plus important. Après, il va falloir gérer. Donc, je pense que demain, on verra les stratégies. Il y a plusieurs possibilités. La majorité, à mon avis, devant, en tout cas, partira en soft, parce que là aussi, on va essayer de prendre le meilleur départ possible. Maintenant, combien ces pneumatiques vont-ils tenir avec le plein de carburant, justement? Il va falloir gérer ça. Et là, dans ce secteur-là, d'après ce qu'on a pu voir dans les trois séances d'essais libres lors des simulations, les Red Bull Honda sont un tout petit peu mieux que les Ferrari. Donc, ça veut dire, enfin, j'allais dire la Ferrari, puisqu'on rappelle que Carlos Sainz partira malheureusement du fond de grille avec cette belle réglementation qui fait que dès qu'on change des éléments techniques, eh ben, on lit la grille à l'envers, ils vont être deux, hein, Kevin Magnussen et lui, alors que Carlos Sainz évidemment était en mesure lui aussi de se battre pour la pole.
Jean-Luc, on précise, et d'ailleurs on souligne la belle performance de Lewis Hamilton qui partira quatrième, hein, et il prouve qu'il revient à bon niveau le pilote Mercedes.
Bon, à 9 dixièmes quand même, mais il est là.
Au moins il est là, à la bagarre, et puis surtout la déception pour les pilotes français, je le disais, dixième place sur la grille, il aurait dû être douzième, mais tu le disais, il y a deux pilotes qui partiront en fond de grille, donc dixième place pour Esteban Ocon, la quatorzième pour Pierre Gasly éliminé dès la Q1. Grand Prix de France, c'est vrai que ça fait un peu tâche quoi, d'avoir nos pilotes français un peu éloignés comme ça.
C'est un peu dommage, c'est un peu terrible. Alors Pierre avait des difficultés pour exploiter parfaitement son AlphaTauri depuis plusieurs Grands Prix. Il s'en plaignait, il attendait beaucoup d'évolutions. Là, on ne va pas les lister, mais enfin, on a pratiquement tout retouché. On ne peut pas dire que le résultat soit formidable, même si il faut quand même souligner que Yuki Tsunoda signe le 8e temps. Donc c'est vraiment des problèmes qui sont propres à Pierre pour le moment, avec un Tsunoda qui monte en puissance très clairement et qui est là, qui est constant. Donc, ce sont des problèmes de voiture, oui, mais comme tu le sais, le pire adversaire, c'est toujours le coéquipier. Et là, il faut reconnaître que là, Yuki Tsunoda s'en sort très très bien.
Merci Jean-Luc. À demain, 14h30, présentation du Grand Prix et 15h le grand départ.
Et 15h le grand départ, 53 tours, je serai là.
Voilà,
et avec Denis Chevrier.
En intégralité, avec notre consultant, évidemment, notre spécialiste de tout ce monde de la Formule 1, Denis Chevrier, en studio. Donc on va se régaler avec ce Grand Prix de France, la 12e manche du championnat du monde. Merci Jean-Luc.
À demain,
bonne soirée. À demain, et nous, dans un instant, on file à Eugene, aux États-Unis, les championnats du monde d'athlée pour le 100 mètres de Kevin Mayer, le décathlon qui commence évidemment pour notre principale chance de médaille tricolore. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h46 sur RMC l'Intégral Sport jusqu'à 19h. On retrouvera ensuite Christophe Cessieux pour l'After Tour. Et donc, on va reparler de cette victoire dans le chrono de Wout Van Aert. Magnifique victoire du Belge. Et surtout le maillot jaune qui est confirmé pour Jonas Vingegaard qui, pour la première fois de sa carrière, va remporter le Tour de France. Avant de filer à Eugene, direction Bologne, l'Italie en ébullition avant la demi-finale de Ligue des Nations de volley entre la Squadra Azzurra et l'équipe de France, des Bleus qui sont cernés par 11 000 supporters chauffés à blanc, une ambiance magnifique. On en parle évidemment avec Nicolas Bayou, notre monsieur volé sur RMC. Salut Nico.
Salut Benoît, salut à tous.
Pour ceux qui se demandent encore qui est Nicolas Bayou, c'est Jean-Patrick l'année dernière, évidemment, ce titre olympique sublime
qui nous a
décroché
régalé
par les Bleus, qui nous a régalé. Parle-nous, avant de parler du sportif, Nico, rapidement des liens très étroits qu'il y a justement entre l'Italie et la France. Même le sélectionneur français est italien.
Oui, il y a 10 joueurs de l'équipe de France qui jouent ou qui ont joué dans le championnat italien. Ils se connaissent par cœur, les joueurs. c'est le championnat le plus fort au monde, le championnat italien, très professionnel, très médiatisé. Les meilleurs joueurs au monde y sont, comme N'Gapet, bien sûr, comme Léon. Vous vous souvenez de Léon, le Cubain naturalisé polonais qu'on avait battu en quart de finale des Jeux Olympiques. Et puis tu en parlais, il y a ce petit plus avec Andrea Gianni, le sélectionneur italien maintenant de l'équipe de France, qui est une légende en Italie. Donc la connexion est très forte. On va parler ce soir d'un duel fratricide entre la France et l'Italie.
Évidemment. Et d'un point de vue sportif, est-ce qu'on est favori ou outsider de cette demi-finale de Ligue des Nations?
On a une affiche superbe déjà, hein. Champion olympique, la France, contre les champions d'Europe. C'était après les Jeux en septembre 2021. Deux grands pays de volée. Les Bleus ont battu les Italiens au premier week-end de cette compétition, la Venelle, 3-0. Ça sera évidemment un autre match. Mais on va avoir une demi-finale de très très haut niveau avec une génération française qui est à son apogée avec des cadres en pleine confiance. On en parlait, hein. Jean-Patry le pointu, que tout le monde connaît. Antoine Brizard, le passeur culotté de cette équipe de France. Et puis, bien sûr, Erwin N'Gapet, qui n'a pas joué le quart de finale, qui a un petit problème d'entorse à la cheville, très très légère l'entorse. Okay. Donc, il a été soigné, il est apte. Est-ce qu'il va démarrer? C'est la question. En tout cas, les Bleus sont en pleine confiance. Ils ont facilement battu en quart de finale le Japon 3-0. Ils ont impressionné. Les Bleus, ils ont un petit peu plus d'expérience que l'Italie, qui reste quand même une référence mondiale. Elle a réussi à rajeunir totalement son effectif et elle est déjà performante avec ce titre européen en septembre. Elle vient de remporter cette compétition chez les filles pour la première fois et chez les jeunes également, championne d'Europe en U22. U18, pourquoi j'en parle? Parce qu'en finale, à chaque fois, elle a battu la France.
Ouais, bon, en tout cas, là, on est en demi, donc on peut peut-être les battre, les Italiens. On suivra ce match à partir de 21h. Hein. Merci, Nico. À tout à l'heure. 19h49, justement, on file à Eugene, donc les mondiaux d'athlé aux États-Unis. Et c'est notre plus grande chance de médaille. Évidemment, l'équipe de France, toujours sevrée de podium depuis le début de la compétition. Et comme aux Jeux Olympiques l'an dernier, tous les espoirs reposent désormais sur les épaules de Kevin Mayer, seul athlète tricolore médaillé à Tokyo, je vous le rappelle. Il avait décroché de l'argent sur Décathlon. Aurélien Tiersin est sur Zone en Oregon. Salut Aurélien.
Salut. Bah on est excité là parce que c'est le moment où jamais la faute de Benoît.
Ah là tu m'étonnes. Alors je disais le 100 mètres de Kevin sera à suivre d'ici quelques secondes. En fait, ce sera un peu plus tard parce qu'il y a plusieurs séries. Hein. C'est ça l'histoire, Aurélien.
Ouais, exactement. Il est dans la troisième série. Kevin Mayer, ce sera 19h06 heure française. Et puis dans la matinée, on aura le concours de la longueur, du poids, et puis dans la nuit, la hauteur et le 400 mètres. Programme habituel de la première journée d'un décathlon.
Alors avant de revenir sur ce qui s'est passé hier, on va parler notamment de Renaud Lavillenie, qui est qualifié pour la finale de la perche, ou encore de l'équipe de France du 4x100 mètres. Parlons justement de Kevin. Il n'est pas dans l'état de forme de sa vie, il est toujours un petit peu dans le doute. Kevin Mayer, ça se confirme une nouvelle fois cette année, hein, Aurélien?
Alors, il va mieux, beaucoup mieux qu'à Tokyo où il avait le dos bloqué pour la première fois de sa carrière. Il avait pris des antidouleurs, il avait un problème au tendon d'Achille récurrent toute la saison, mais là depuis deux mois, il recourt normalement. Alors, le petit doute, c'est qu'il a participé à très très peu de compétitions. Par exemple, il n'a pas fait de 100 mètres, pas de 400 mètres, pas de 110 mètres et pas de javelot cette année. Mais Kevin Mayer se sent très bien dans la tête déjà. On peut l'écouter, c'était hier.
J'aborde ces championnats avec une certaine aisance physique par rapport à Tokyo, mais une certaine appréhension parce que mon dernier décathlon était Tokyo, donc tant que je ne serai pas sur la piste libérée, j'aurai toujours peur que quelque chose arrive, etc. Mais au vu de mon expérience, cette peur n'est pas néfaste, elle est plutôt positive pour mes performances, donc ça devrait vous vouloir dire que les perfs vont être pas mal.
Bon, on le connaît, évidemment, il se pose toujours pas mal de questions, Kevin Mayer. Question toute simple, Aurélien, le podium, c'est quasiment une obligation pour lui. Est-ce que le titre mondial est vraiment accessible pour Kevin?
Accessible, c'est sûr, ça serait une énorme bagarre avec le Canadien Damian Warner, qui est l'autre homme en très grande forme, champion olympique en titre. Ils sont seulement 4 dans l'histoire à avoir passé 9000 points. Il y avait l'ancien recordman du monde, d'ailleurs le local de l'étape en Oregon, Ashton Eaton. Il y avait le Tchèque Roman Seberle, et puis il y a Kevin Mayer et Damian Warner. Donc si les deux, Kevin l'a dit, si les deux ne sont pas blessés, parce que Damian Warner touchait un petit peu l'ischio aussi à l'échauffement, ça tire toujours un peu dans tous les sens le corps des décathloniens, mais si les deux sont en forme, Mayer, Warner, ça devrait être or, argent, argent, or. Ça va en tout cas être une énorme bataille entre les deux. Et Kevin Mayer, voilà, il l'a dit, les performances devraient être pas mal. On attend avec impatience le 100 mètres. Là, la première série, c'est gagné en 10,88 par un Norvégien. Ah. Normalement, Mayer, ça va plus vite et Warner, ça va beaucoup plus vite.
Oui, Warner qui est un peu un spécialiste du sprint.
10,12 son record sur 100 mètres.
Est-ce que tu as une heure précise pour le 100 mètres de Mayer du coup?
Oui, c'est 19h06.
Bon, très bien.
Ça sera donc tout à l'heure dans l'after tour.
On va l'imposer à Christophe Sessieux.
Exactement.
Exactement.
Alors, revenons sur les perfs d'hier. On était inquiets pour les perchistes tricolores et finalement, c'est le plus ancien d'entre tous qui s'est qualifié pour la finale. Et il s'est qualifié in extremis. C'est Renaud Lavillenie qui aura donc la chance d'être finaliste une nouvelle fois des mondiaux de saut à la perche. Hein.
Exactement, 7e mondiaux pour Renault, 6e finale, et les 5 premières fois, il a chaque fois obtenu une médaille. Donc on espère qu'il va obtenir une 6e médaille. Ça va être un peu compliqué effectivement dans ses qualifications. À 5,65, il s'est fait très très peur, Renault Lavillenie. Il est passé à son dernier essai, beaucoup de mal à se régler, et puis ensuite à 5,75 m, il est passé au deuxième essai. Ça a été un tout petit peu plus tranquille pour Lavillenie. Et puis toutes les stars se sont qualifiées. Duplantis évidemment, qui est, on a l'impression qu'il va tomber loin du tapis tellement il va haut à 5,75. Ouais. Il y a Thiago Braz, l'ennemi numéro 1 de Renaud Lavillenie depuis son titre olympique à Rio en 2016. Et on peut écouter Renaud qui a lui aussi transpiré un tout petit peu. Il a eu peur de voir cette finale s'échapper.
Bon, j'aurais rêvé comme vous avoir un truc plus facile, mais bon, c'est... Ça se passe pas tout le temps comme prévu, et le plus important c'est que ça passe, donc je suis content, hein. C'est mes 7e championnat du monde, 6e finale, j'espère aller chercher cette 6e médaille quoi. J'en ai chié à l'entraînement, et donc voilà, maintenant là j'ai presque un des meilleurs moments qui nous arrive, c'est on se pose plus de questions, on savoure, et puis vivement dimanche quoi.
Voilà, la finale à suivre dimanche pour Renaud Lavillenie à la perche. On précise la déception d'hier, c'est l'élimination en demi-finale du 800 mètres de Renel Lamotte. Malheureusement, elle avait été ultra performante en série, ça s'est moins bien passé en demi. Et puis, en un mot, rappelons l'autre bonne nouvelle, et pourquoi pas un podium, on peut l'espérer pour le 4x100 mètres masculin. Ça s'est bien passé pour nos sprinteurs, hein, Aurélien.
Ouais, ça s'est très bien passé. Victoire en demi-finale avec un relais composé de Michael Zézé qui a couru en 9,99 cette saison. Il a transmis le relais à Pablo Matteo qui est un tout jeune qu'on connaît pas non plus mais qui a couru en 10,00 cette année. Ryan Zézé, le petit frère de Michael, et puis Jimmy Vico qui lui aussi revient en forme. L'équipe de France, voilà, en individuel, c'est moyen, on va dire, mais en équipe, ils ont remporté leur série. Derrière les Américains qui vont très probablement taper le record du monde, ou en tout cas aller le titiller, il y a vraiment de la place pour l'équipe de France. Pourquoi pas un podium pour le 4x100?
Merci Aurélien, bonne soirée évidemment à Eugene. 19h06 le rendez-vous pour le 100 mètres de Kevin Mayer, première épreuve du décathlon. On espère que Kevin sera au rendez-vous. Merci Aurélien, à tout à l'heure. 18h54, avant de transmettre le relais justement à Christophe Sessieux, je vous rappelle ce cadeau exceptionnel qui est mis en place par l'équipe d'RMC Running. C'est le podcast dédié à tous les passionnés de la course à pied sur les applis d'RMC et les plateformes de téléchargement. Le défi qu'on vous lance pour la rentrée, on vous offre votre dossard pour le marathon Nice-Cannes, ce sera le 30 octobre. Et en plus de ça, on vous offre la tenue RMC Running qui va avec, et surtout la préparation personnalisée avec notre champion, le marathonien de l'équipe de France, Johan Durand. On cherche 4 profils différents, 2 hommes, 2 femmes, avec 4 objectifs différents. N'hésitez pas à aller vous inscrire, vous allez sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter ou encore le club RMC Running sur Strava. 18h55, il est là, Christophe Sessieux, toujours présent évidemment.
Bon, ben oui,
peut-être un peu fâché avec certains.
Encore 24 heures, c'est fini. Hein. Hop là,
t'es fâché
je me
avec qui, là,
du druide, je le renvoie en Bretagne. Hop là.
Alors t'es fâché avec qui? Avec le druide? Avec Pierre-Yves? Avec qui? Avec personne?
Mais personne. On a une entente parfaite dans cette équipe. Tu rigoles? Bon. Je les tiens d'une main de fer.
Ah ça je le sais. Ah oui, c'est toi le patron, ça c'est sûr. Bon, vous allez revenir évidemment sur Wout Van Aert, hein. Quel coureur quand même.
Ouais. Wout Van Aert qui décroche une 3e victoire sur les routes de ce Tour de France. Mais enfin, il peut dire merci à son équipier et leader à la fois, Jonas Vingegaard, qui aurait pu aujourd'hui aller lui shipper la victoire d'étape. Jonas Vingegaard qui termine à quelques secondes seulement du maillot vert alors qu'il s'est relevé dans le final. On va évidemment revenir sur cette écrasante domination de la formation Jumbo, sur le succès de Jonas Vingegaard qui il y a deux ans, imaginez-vous, terminé 46e de la Vuelta. Un énorme progrès, c'est pas un pas qu'il a franchi, c'est un véritable gouffre, et il va donc s'imposer demain sur les Champs-Élysées à 25 ans, première victoire dans le Tour de France. On s'intéressera également à l'avenir avec Vingegaard et Pogacar, sont-ils là pour des années? Et on reviendra sur le classement des Français. Gaudu qui termine 4e de ce tour, Bardet qui gagne une place 7e, et pourtant leur temps au chrono n'ont pas été fabuleux puisqu'ils terminent à plus de 3 minutes du vainqueur Wout Van Aert. On est là jusqu'à 20h, c'est l'after tour dans un instant.